avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 894 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec le crément d'Alsace qui cartonne, deux hommes remarquables qui malheureusement nous ont quittés, Pierre Gallet et Georges Duboeuf, la naissance d'une nouvelle famille de vins avec le premier salon des vins volcaniques du monde entier qui va se dérouler évidemment à Clermont-Ferrand à la fin de ce mois, et puis le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, Hélène Piau, Laure Gasparotto, les plus belles femmes du vin, bonjour mesdames.
Bonjour.
Et puis des hommes très beaux, parce qu'il faut qu'il y ait la parité, ils sont très très beaux aussi, David Cobol et Philippe Aubrac, bonjour messieurs. Et
bonjour.
Alors pour commencer cette émission, Invino Sud Radio retrouve Hélène Piau, chef du rubrique au magazine Régal, avec un nouvel invité, Étienne Besancenot. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Alors vous avez rejoint le domaine en 2007, racontez-nous.
Oui, je suis arrivé sur le domaine en 2007, après un petit parcours à droite à gauche. Enfin,
c'est où à droite à gauche? Parce que là, depuis le président Macron, c'est où à droite à gauche alors?
Bah, en Espagne, en Alsace, un peu en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud. Et je me suis posé dans les Corbières, donc en 2007, au château de Caraguille.
Très bien. Hélène?
Alors, au château de Caraguille, effectivement, on va situer, parce qu'il se trouve que peut-être tout le monde ne connaît pas le château de Caraguille.
C'est une erreur, d'ailleurs.
Mais après cette émission, tout le monde saura. Donc, vous êtes effectivement à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, dans l'Aude, entre Narbonne et Carcassonne, à une trentaine de kilomètres de la mer, environ. Et c'est un domaine qui n'est pas tout neuf. Déjà au XIIe siècle, il paraît que c'était l'un des domaines les plus importants cultivés par les moines cisterciens. Vous
oui,
y étiez?
Je l'ai bien connu à cette époque-là.
C'est ça.
David Cobol, qu'on a décongelé ce matin. Là. Oui.
J'avais organisé une verticale, d'ailleurs.
Donc, racontez-nous, Étienne. Vous êtes arrivé en 2007. Il s'est passé quoi entre le XIIe siècle et 2007?
Vous avez deux minutes. Hein.
Pas mal de choses. C'est vrai que ça a été une dépendance de l'abbaye de Fontfroide. En fait, on se trouve entre deux abbayes, donc l'abbaye de Fontfroide et l'abbaye de La Grasse. Donc, on est une dizaine de kilomètres entre les deux. Donc, il y a eu une grosse influence des moines, notamment des moines cisterciens de Fontfroide. Et Caraguille était une des granges de l'abbaye, donc sur lesquelles on produisait et du vin, mais aussi pas mal de céréales. Et c'est un domaine qui n'a pas été divisé au cours du temps. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il fait toujours cette taille-là, un peu plus de 5 hectares.
C'est ça, près de 600 hectares en tout, je crois.
Voilà, d'un seul tenant, et dont aujourd'hui 100 hectares de vignoble, avec le vignoble qui s'est bien sûr développé un peu plus au cours du 19e siècle.
D'accord.
Comme un peu partout dans la région. Il faut savoir aussi que ça remonte avant, puisque nous, on a une parcelle sur laquelle on retrouve très régulièrement des morceaux d'amphores romaines. Donc, il y avait un lien avec le vin, même avant les moines cisterciens.
Effectivement. Alors, sur la centaine d'hectares qui sont cultivés en vigne, vous avez les cépages classiques de la région, Syrah, Carignan, Grenache noire, Mourvèdre.
Voilà, exact. Donc, avec une part un peu spéciale au Carignan, un peu le cépage, entre guillemets, historique du coin, notamment, enfin, comme on est sur l'appellation Corbière-Boutonnac, c'est le cépage qu'on met en avant.
Oui, essentiellement Corbière, je crois, hein, 70 hectares en Corbière.
Oui, en fait, nous, tout est, disons, classé en Corbière, une grosse partie en Corbière-Boutonnac, notamment. Et on fait juste un petit vin de pays coteau de la Cabrerisse, mais sinon tout 80% de la production c'est Corbière puis Corbière-Boutonnac.
Alors de Cabrerisse à Cabri, il y a pas très loin phonétiquement. J'ai entendu parler de brebis chez vous.
Exactement.
Ouais, trouver Hélène, bravo.
Vous voulez qu'on fasse un brebis?
Allez, fais ta brebis, tiens, David. Ça, c'est la brebis 2020, quoi. Voilà.
Étienne Besancenot n'est pas dépaysé comme ça. Nous aussi, nous avons
José
des brebis.
On dirait.
Bon, Étienne, poursuivez. Racontez-nous ces brebis dans vos vignes.
Bah, depuis maintenant 6 ans, ou à peu près 6-7 ans, on accueille un berger, Jérôme, sur le domaine qui est là. Donc, on lui a construit une petite bergerie qui est là de octobre à juin. Après, en été, bien sûr, les Corbières, c'est quand même une terre un peu aride. Donc, les brebis, pardon, dans les Pyrénées. Et donc, voilà, pâture dans les vignes jusqu'à, disons, l'éclosion des bourgeons. Après, elles n'ont plus le droit d'y aller. Mais ça participe un peu à l'entretien du vignoble et à la vie du domaine. Donc, il y a 200 brebis qui se promènent dans le vignoble.
Et alors, l'éclosion des bourgeons, hop, exit les brebis. On ne sait pas ce qu'elles vont faire, d'ailleurs, pendant ce temps-là. Mais
elles restent dans la garrigue.
Bon, d'accord. Mais le raisin, pendant ce temps-là, se développe au point de faire jusqu'à 500 000 bouteilles par an.
Oui.
Donc, 500 000, c'est beaucoup. Racontez-nous vos cuvées.
Enfin, 500 000, c'est beaucoup dans l'absolu. Sur 100 hectares, c'est reste c'est raisonnable,
vrai.
Disons.
Très.
Nous en cuvée, enfin, on produit pas mal de rosé, mais sinon voilà, c'est en rouge qu'on a le plus grand nombre de cuvées, disons, avec des cuvées en corbière Boutenac, donc on a 3 cuvées, des cuvées en corbière, et c'est vrai, on tire aussi un peu, enfin, notre épingle du jeu. Puisqu'historiquement, Caraghi aussi produit du blanc.
Du blanc également, quoi.
Et c'est vrai que Corbière Blanc, aujourd'hui, comme les gens connaissent peu...
Oui, c'est à découvrir. Il y a un potentiel de développement.
Oui,
Etienne, il y a un élément important, c'est le bouchage des bouteilles. Comment vous travaillez, vous?
Alors, on travaille avec deux types de bouchons naturels, donc pour un certain nombre de vins, notamment tous les rouges. Mais aussi des bouchons techniques type Diam, si on peut citer, comme le blanc, enfin notamment notre cuvée La Font Blanche, qui sont des bouchons voilà avec lesquels on a...
Vous n'avez pas de problème, vous devrez être content.
Constance, ouais.
Hélène, pour terminer, donc le coup de cœur sur les différents vins proposés par Étienne, en tout cas le domaine.
Alors moi j'ai eu un gros coup de cœur pour une cuvée en blanc, La Font Blanche 2018, cépage Roussanne, Marsanne et Grenache blanc. Et alors je dois vous avouer Étienne que on l'a bu parce que j'étais pas toute seule, hein, faut pas exagérer.
À 300.
Voilà. Non.
Avec modération toujours.
Alors avec modération, mais on était deux.
D'accord. Donc vous l'avez bu en 6 jours, c'est très bien. Alors donc
voilà.
Un petit commentaire, oui.
Et non, c'était pour dire que habituellement j'ai tendance à dire à cette antenne que je goûte les vins et là je dois dire que j'ai bu.
Ah, vous êtes allé au-delà, quoi.
Clairement, parce que ça se boit, je dirais presque tout seul. Alors oui, avec modération, évidemment.
Allez, on va se confesser, Hélène, tout de suite, là.
Mais on l'a commencé à l'apéritif avec juste des petites noisettes, des amandes, comme ça. Puis on a continué à discuter. Puis à un moment donné, on s'est dit, tu sais quoi, on va passer directement au fromage, parce que ça appelait vraiment ça. On avait un Saint-Nectaire fondant, du pain croustillant. Et avec ça, la Font Blanche 2018, c'était floral, c'était frais et c'était éminemment buvable.
Combien ça coûte une bouteille?
Ça coûte 10 euros.
10 euros.
Le bonheur,
ouais,
coûte 10 euros.
Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup Hélène. Merci également Étienne. Invino Sud Radio retrouve Philippe Aubrac, meilleur sommelier du monde, pour nous parler. Alors on quitte le Sud pour aller en Alsace, qui est aussi une autre très très belle région, Philippe.
Très, très belle région, puisqu'elle produit des vins depuis très longtemps. C'est une région qui a toujours été prisée. Puis la situation particulière, un peu au centre de l'Europe, entre le Luxembourg pas loin, l'Allemagne juste en face, la Suisse à côté, permet effectivement des échanges qui ont été assez favorables à ce vignoble alsacien, qui est un très beau vignoble déjà en tant que tel. C'est beau.
Ils sont très sympas, les Alsaciens.
Et puis les Alsaciens sont accueillants. Là, ils sortent un peu du marché de Noël, des agapes, du vin chaud, des brioches, des kouglof et autres flammes
de cuche. C'est uniquement mi-janvier qu'on commence à respirer un peu.
Exactement. Et donc là, les effluves partent un peu, mais quelque part, ils continuent à profiter de la vie et à diffuser notamment l'une de leurs boissons fétiches qui est effervescente, qui est le crémant d'Alsace. Alors, le crémant d'Alsace, c'est un vin effervescent d'appellation d'origine contrôlée, élaboré selon la méthode dite traditionnelle, double fermentation. C'est le même système que l'on a dans les grands vins effervescents du monde, Champagne en tête bien entendu. C'est l'appellation qui produit le plus de vins effervescents en dehors de la Champagne, puisqu'il y a à peu près 33 millions de bouteilles produites. Sur les 100 millions à peu près de crémants produits en France, ils sont les leaders.
Comment vous expliquez, Philippe, cette mode sur les bulles, les bulles françaises au sens large, hors champagne inclus?
Il y a un côté festif, il y a un côté, finalement accessible aussi, parce que même si le champagne est positionné en termes de qualité et de prix plus haut, il y a beaucoup de vins effervescents finalement qui sont plus accessibles.
Un crément par exemple, c'est dans les combien?
Le crément entre 10 et 25, 30 euros pour les grandes cuvées, mais
on se régale,
entre 10 et 15 euros la plupart du temps, et même moins parce qu'on trouve en grande distribution des créments d'Alsace à 8 euros.
Ouais. Qui peuvent être très bien aussi.
Très correct, exactement.
Les cépages, qu'est-ce qu'on a dans le crément d'Alsace?
On a tous les cépages alsaciens traditionnels, en tête le pinot blanc qui est très utilisé, mais également le pinot noir, parce qu'on fait du crément d'Alsace rosé également, qui est très intéressant. Et puis on élabore également le crément d'Alsace avec un cépage exotique pour l'Alsace, puisque l'appellation permet de mettre du chardonnay.
Du chardonnay.
Et quand on pose la question dans un quiz, est-ce que le chardonnay est autorisé dans l'appellation Alsace?
Tout le monde dit non, en théorie.
Quelque part, c'est assez logique, parce que ça fait partie de toute la famille de Pinot, qui est autrement présent au grand complet en Alsace.
Oui, exactement, auquel on peut aussi rappeler ou rajouter le Pinot auxerrois, qu'on appelle l'auxerrois tout court, mais qui effectivement fait partie aussi de cette famille des Pinots. Alors, la spécificité du crément d'Alsace, si on peut la définir, parce que l'Alsace, c'est tout en verticalité, du nord au sud, hein, et il peut y avoir des zones d'influence climatologique un peu distinctes, mais néanmoins, il faut des raisins au départ avec une bonne acidité pour que l'acidité puisse se retrouver dans le vin, pour que la prise de mousse se passe bien et pour que le vin reste équilibré. Ce qui est en général le cas, même si l'évolution climatique fait aujourd'hui que c'est un peu moins facile qu'avant. L'appellation existe depuis 1976, même s'il y a une tradition plus ancienne, mais en 1976, ils ont eu l'appellation
contrôlée. Le
décret d'appellation contrôlée crément d'Alsace. Le climat est assez, finalement, modéré à la fois par l'influence du Rhin, qui joue toujours ce rôle modérateur, au modulateur, et puis les Vosges également, qui influence également, qui maintient une sorte de...
Voilà, en ce moment, il fait frais. Hein, écoutez ce matin les infos, là.
Oui, il fait frais un peu partout, ces derniers temps. Voilà. Mais néanmoins, alors, ce sont des vrais vins d'apéritif, bien entendu, un peu comme tous les vins effervescents, même si on a de temps en temps l'idée ou l'envie de le servir avec un dessert, par exemple. Pourquoi pas? Le rosé, éventuellement, peut faire.
Quelques vignerons, plutôt... Philippe, peut-être, que vous souhaitez mettre en avant?
Oui, bah, les grandes maisons sont célèbres. Les grandes caves coopératives travaillent très bien. Ils font la cave de Turckheim, la cave de Riquewihr, la cave de Ribeauvillier, etc. Font des créments très intéressants. Et les grandes maisons, de façon générale, produisent également des créments de qualité. Parmi les caves coopératives, Volberger fait partie effectivement des belles maisons et élabore, et c'est pas les seuls, mais eux, une gamme dans les créments. Ils ont le crément basique.
Il y a des millésimes sur les créments ou pas?
Ça peut être millésimé, bien entendu. Mais ils le servent aussi. Ils ont également des cuvées haut de gamme qui sont effectivement plutôt vendues au prix d'un champagne, mais qui les valent vraiment en termes de qualité également.
Merci beaucoup Philippe Herbach, merci à tous. On se retrouve dans un instant au bar à vin du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec The Vino Quiz.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris. Nous sommes à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Piau, puis le Vino Quiz. Mais alors, juste avant, une info. Vous le savez, alors ça, c'est pas un scoop. Hein. Nous sommes le 18 janvier, voilà. Mais dans un mois, nous serons le 18 février. Bravo.
C'est dingue.
Et aura lieu un dîner de gala organisé au Louvre par le prince Robert de Luxembourg au profit de la Cité du Vin de Bordeaux. On peut réserver une place. Alors, ça coûte 1 200 € par personne. Voilà. Ou une table entière pour le dîner. Alors, avis aux heureux élus. Et puis, tout ça, encore une fois, c'est au profit de la Cité du Vin de Bordeaux. Pour savoir plus, allez sur le site de cette cité. Voilà, voilà, ma chère Hélène. La messe est dite, si je puis dire. À vous.
Le Vino Quiz, à présent. Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau, le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux.
Très joli cadeau.
Ça vaut le coup. La question de la semaine dernière était: comment se nomme le domaine d'Anne-Laure Boras? Réponse A, l'Ancien Monde. B, le Nouvel Univers, ou C, le Nouveau Monde?
Et la réponse est...
C'était la C, le Nouveau Monde.
Cette semaine,
sur combien d'hectares sont répartis les vignobles du domaine du Château Caraguille? Réponse A, 135. Réponse B, 500. Réponse C, 999 hectares. Ça fait beaucoup. Pour répondre et gagner le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup Hélène. Invino Sud Radio retrouve David Cobold, le cofondateur de l'Académie des Vins et Spiritueux, pour nous parler de deux hommes remarquables qui malheureusement nous ont quittés, David.
Oui, je tiens aussi à rajouter, et ça malheureusement c'est une surprise récente, une femme dont je vais parler également. Donc tous les trois remarquables et tous les trois dans différents domaines de toute la filière vin. Georges Dubœuf, je pense que la plupart des auditeurs savent qui c'était. C'était un homme très important dans le Beaujolais, qui a fondé un véritable empire à Beaujolais. Et il faut savoir que sur les dernières décennies, Georges Dubœuf achetait, enfin sa société, achetait 20% de la production des raisins du Beaujolais. Et sans lui, je pense qu'on peut dire, on peut toujours, les gens sont toujours prêts à critiquer, trop gros, etc., machin. C'est trop facile, ça. Il a aidé à survivre beaucoup de vignerons au Beaujolais.
Et c'est lui qui a inventé le Beaujolais Nouveau, pas ?
Non, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il a été un très très grand promoteur du Beaujolais Nouveau. Oui. Et c'est quelqu'un qui a démarré d'une manière très modeste. Il vient d'une famille de vignerons de la région de Saint-Véran, juste au-delà de la frontière, donc le sud de la Bourgogne. Il a commencé avant l'âge de 18 ans à vendre les vins de sa famille à vélo, et avant les grèves de métro, à vélo à Lyon. Ensuite, ça marchait bien parce qu'il avait l'art de vendre, l'art de produire du bon vin aussi. Et du coup, des vignerons autour lui ont demandé de mettre en bouteille, parce qu'à l'époque, tout le monde vendait en vrac ou vendait des raisins à des coopératives, de l'aider. Et donc, il a constitué un espèce de petit réseau, un petit club de vignerons. Et ensuite, il a fondé en 64 son affaire de négoce.
Alors, Pierre Gallet est peut-être moins connu, David. Hein.
Alors, Pierre Gallet est moins connu, sauf par les spécialistes de l'empélographie. C'était un très grand empélographe. Et je tiens à dire que Georges Dubœuf, il est décédé à l'âge de...
Qu'est-ce que c'est que l'empélographie ?
Alors attendez, je vais y revenir. Georges Dubœuf, décédé à l'âge de 87 ans. Pierre Gallet, 98 ans. Comme quoi, boire du vin avec modération et régulièrement, c'est pas nocif pour la durée de vie.
Du bon vin, bien sûr.
Pierre Gallet, grand empélographe, c'est-à-dire la science de la vigne.
De la vigne.
L'identité de la vigne, du plant de vigne, son comportement, son identité et son... identification.
Le patrimoine génétique également, ça en fait partie.
Le patrimoine génétique en fait partie. Il a écrit un livre vraiment de référence qui s'appelle L'Encyclopédie des vignes et qui a été publié récemment. La dernière édition date de 2010. Ça fait plus de 1000 pages quand même. C'est un tome de référence pour tout le monde qui s'intéresse au sujet.
Le sujet est vaste.
Et le sujet est vaste. Alors, il n'y a pas que la vigne à vin. Il y a aussi les vignes de table hein, qui sont dedans. Y compris des cépages rares, c'est-à-dire des cépages que plus personne ne vinifie, mais c'est un sujet vraiment riche, vraiment intéressant. Donc, hommage à cet homme qui a travaillé toute sa vie jusqu'à très, très tard. Et
98 ans, vous dites. Hein.
98 ans.
Et la dame ?
Elle vient d'Angleterre, Hazel Murphy. Elle était presque seule responsable pour l'expansion des vins australiens en Europe, pas seulement en Grande-Bretagne. Pour vous donner un chiffre, Hazel, par exemple, pendant ça, elle a fondé The Australian Wine Board pour l'Europe, y compris la Grande-Bretagne. Pendant ses 17 ans à la tête de ça, les expéditions de vins d'Australie sont passées de 1,4 million de dollars à 897 millions de dollars vers l'Europe. Quand même chapeau. C'était une dame toute petite, toute menue, très enthousiaste, très facile d'accès, qui a pris les choses par le bambou en disant la manière de faire connaître le vin, c'est de le faire goûter. C'est aussi simple que ça. Et en faisant déguster tous les professionnels du vin, et on les a menés en Australie à un moment donné, elle a mené 110 professionnels du vin, presse et distributeurs de toutes sortes en Australie. Il faut quand même s'organiser, ça. Donc Hazel, c'était une dame gentille, chaleureuse, et ça n'a aucun rapport avec cette affaire-là, mais elle a eu le bon goût d'acheter deux de mes tableaux.
Ah, merci David Cobol, merci David. Bel hommage, une vidéo sur Radio retrouve Laure Gasparotto, journaliste au Monde, pour découvrir une nouvelle famille, celle des volcaniques. C'est chaud là aujourd'hui là.
Voilà, c'est une année éruptive. Et je trouve que, je suis extrêmement enthousiasmée par la naissance de cette nouvelle famille. Quand j'ai appris que cette association Vinora a été créée, je me suis précipitée, comme David Cobold l'avait remarqué sur cette antenne il y a quelques semaines, pour déguster donc les vins des Côtes d'Auvergne et de nombreux vins d'origine basaltique et volcanique du monde entier. Et donc, je voulais signaler à nos auditeurs qu'il y aura un salon du 30 janvier au 3 février à Clermont-Ferrand. Donc,
salon public, Laure ?
C'est un salon public.
Public, hein, voilà, c'est pas que les pros. Quoi.
Donc, on peut se renseigner, je peux donner un numéro de téléphone. C'est l'association Vinora, c'est le 07 72 45 57 78. Et donc,
il y a un site internet aussi.
Moi, j'ai une adresse mail, Vinora, vin volcanique. vinidom@gmail.com. Et donc, il y a une enceinte de Vinidom à Clermont-Ferrand qui sera ouverte pour valoriser les terroirs du Puy-de-Dôme pour le public. Et donc, il y aura une quarantaine de domaines pour le moment. C'est la première édition de ce salon international. Une quarantaine de domaines français et internationaux.
De quelle région alors? De quel pays plutôt?
Donc, on aura des pays de Chypre, de Grèce, d'Israël, d'Italie, du Portugal. Et à l'avenir, on espère d'Oregon et d'Australie.
Partout il y a des volcans, quoi.
Et de partout il y a des volcans. Et il y a une vraie unité gustative entre tous ces vins. Enfin,
quel que soit le pays, vous dites. À partir du moment où il y a du basalte, il y a tout ce qu'on peut trouver sur un volcan.
Il y a un grain dans la texture de ces vins qui est commun.
D'accord.
Et ce grain, étrangement, alors Philippe Forbrack peut-être l'approuvera ou pas, je ne sais pas, mais ce sont des vins, quand ils sont rouges, qui ont un tel grain qu'ils peuvent accompagner aussi bien un poisson qu'une viande.
D'accord.
Ils ont une espèce de structure très spéciale et c'est la raison pour laquelle je trouve que les avoir identifiés en une famille... et c'est la première famille de vins international.
Oui, quelque part, il y a un terroir commun, David, même si vous n'avez pas ce mot de terroir. En tout cas, il y a une origine.
Une identité.
Oui, une identité.
Je suis un peu sceptique. Je suis en partie d'accord avec Laure, mais je suis un peu sceptique parce que les cépages et les climats sont tellement différents. Qu'il y a tellement
Il y a autant de différences que de paramètres. Moi, je suis assez d'accord avec Laure. J'ai dégoûté pas mal.
Ah, j'aime quand vous êtes pas d'accord tous les deux.
Je serai présent et David aussi d'ailleurs.
Nous serons présents.
Voilà. Rendez-vous à Clermont-Ferrand le 30 janvier.
Non, mais c'est un vrai sujet intéressant.
Moi, il me languit d'y être parce que de voir, de confronter les dégustations, de rencontrer des confrères aussi du monde entier. Il y a un grand spécialiste d'Amérique du Nord, qui sera là, qui a écrit un bouquin sur les vins des volcans, le nom m'échappe, qu'on pourra rencontrer aussi sur place, et de débattre sur ce sujet. C'est un vrai sujet intéressant. C'est effectivement une nouvelle porte entrouverte pour pouvoir identifier peut-être les vins différemment. Même
et vous avez goûté, Laure?
Oui, bien sûr, j'en ai goûté quelques-uns. Alors,
en blanc et rouge, est-ce qu'il y a du rosé aussi?
J'ai pas goûté de rosé, mais je pense que peut-être sur le salon, on pourra en trouver.
Ouais.
Mais j'ai trouvé que c'était très malin aussi de la part des Côtes d'Auvergne, qui étaient quand même un peu dans l'ombre, de se réunir comme ça avec des vignobles
c'est
importants.
Très malin.
C'est très malin, parce que les Côtes d'Auvergne, c'est 400 hectares.
C'est ça.
Et c'est donc le président de cette association, c'est Pierre Desprats, qui est à la tête d'une cave, l'ancienne cave coopérative, cave Desprats Saint-Verny, qu'il a rachetée en 2014. Il a racheté la cave coopérative, mais il a gardé les coopérateurs qui sont devenus des associés, en fait. Ils sont 68 apporteurs dans cette cave privée. C'est très malin. C'est, je crois, la seule cave en France privée qui fonctionne un peu comme une cave coopérative, mais qui n'est pas une cave coopérative, étrangement. Et donc, sous son initiative, il a créé quelques années après l'achat de sa cave cette association et il fait vraiment bouger les choses.
Ouais, c'est bien ça.
Et il y a de très jolis vins. Moi, j'étais frappé par la qualité.
Lesquels, David, de quel pays peut-être? En Auvergne, vous dites?
Je parle déjà d'Auvergne.
Je peux citer des domaines. J'ai bien aimé, moi, le vin du domaine Bougis. Il y a une cuvée qui s'appelle Puy de Joie. Alors après, la cave Desprats, par exemple, Saverny, ils s'amusent aussi avec les noms de cuvées. Donc, il s'appelle la cuvée Basalte. Il y a une cuvée Volcanique aussi, au domaine David Pellissier, que j'ai bien aimé. Il y a une cuvée Magma.
Magma.
Magma de la domaine. Alors, ça,
un peu moins sexy, peut-être.
Mais c'est le domaine de la Tour de Pierre, domaine de la Tour de Pierre, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette cuvée, elle m'a vraiment enthousiasmée, c'était vraiment gourmand, c'était digeste. Ce sont des vins qui sont très digestes et qui ont aussi une...
J'ai beaucoup aimé un qui s'appelle Ozol, le producteur s'appelle Ozol.
Monsieur Ozol?
Oui, c'est ça, c'est le domaine Vincent Ozol, là c'est le Clos des Amoureux.
C'est pour ça que vous avez aimé, David.
J'ai adoré le vin, j'en ai commandé d'ailleurs.
J'allais citer le Clos des Amoureux.
Hélène?
À la suite de la dernière chronique de David Cobold sur ces vins que j'adore aussi, il m'avait tellement donné envie que le samedi soir, en arrivant à la maison, j'ai cherché dans ma cave, j'ai trouvé le Clos des Amoureux.
Aviez un Clos des Amoureux
dans ma cave. C'était délicieux, on l'a bu. Et faites pas comme si vous saviez pas, David, je vous ai envoyé un texto avec la photo.
David Cobold. Laure?
Et je voulais juste.
C'est nos histoires d'amour ne concernent que nous, Hélène.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis également nos 3 milliards d'auditeurs, mais sinon tout va bien.
Non, faites comme si on n'était pas là.
Oui.
Et cette cuvée que vous avez aimée, Hélène, coûte 10 euros et la plupart de ces vins sont quand même très abordables. Entre 8 et 14 euros et plus.
Et les blancs sont comment? Parce que vous parlez beaucoup des rouges, là, les blancs volcaniques sont bien aussi?
Les blancs, alors...
Alors là, il y avait pas mal de blancs de Santerin,
voilà,
en particulier.
Voilà, c'est ça, avec de l'assyrtiko, c'est surtout ce que j'ai goûté en blanc.
Et ceux de l'Assyrtiko central sont essentiellement élaborés à partir de Chardonnay.
Voilà. D'accord. Ouais.
Et ils sont pas mal, pas mal
aussi. Et puis aussi des Açores, où il y a des vins très intéressants, qui n'étaient pas à ce déjeuner de presse, mais qui vont être présents sur le salon. Les vins des Açores, c'est purement le volcanique.
Exactement.
Ils ont un très joli dicton, ils disent que le vin, la vigne doit écouter les crabes.
Parce que les crabes.
Les crabes, c'est-à-dire que c'est sur le volcan, mais sur le bas du volcan.
Ah, parce qu'en haut du volcan, il n'y a pas beaucoup de crabes.
Non, mais ils sont dans le brouillard tout le temps. Là,
donc, ils sont bouillis, quoi.
Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Laure. Merci également à vous, Hélène Bouilly, hein, David Cobol et Philippe Forbrack. Merci également donc, à Charlotte qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain 12h30 précise pour une nouvelle émission, toujours en public et délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous brosserons le portrait d'un grand vigneron du Roussillon qu'on aime beaucoup, Hervé Wiesel. On parlera également des vins de Puisseguin-Saint-Émilion. On terminera la balade avec Thomas Jefferson. On parlera de red wine. Bref, 100% bonheur. D'ici là, excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.